Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Dernière fin de semaine de septembre 2025. Ici Alex Baillargeon et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bonne fin d'avant-midi sur les ondes de CFAC 88.3 Sherbrooke et de Chiz, 94.3 à Québec, vos radios universitaires préférées. Ah là là! Comment ne pas être un peu découragé? Disons que la semaine a été longue, pour certains, pour plus que certains. Ça commence bien. Disons que la semaine a été longue pour certaines personnes qui en demandaient pas autant. Disons ça comme ça. La semaine a, entre autres, été ponctué de la prise en otage de Donald Trump avec l'entièreté du dirigeant de la planète dans un long discours fleuve d'une heure quand la tradition et peut-être les habitudes demandent plutôt des discours concis et précis d'une quinzaine, vingtaine de minutes. Ben, Donald Trump s'est accaparé du micro de l'Organisation des Nations Unies pendant 55 minutes pour dire essentiellement que tous les autres pays, et l'Europe en particulier, étaient des losers et qui allaient tous aller en enfer. Bref, que seuls les États-Unis étaient la seule puissance respectable et qu'ils devaient obtenir le prix Nobel de la paix. C'est sûr que quand tu demandes à toute la planète d'aller chez le diable, t'auras pas grand vote de ton bord, même si officiellement c'est les Scandinaves qui s'occupent des prix Nobel. Disons que ça donnait le ton, parce que c'est ça. Il avait raison sur tout. Il a rajouté aussi que les changements climatiques étaient une arnaque, que c'était pas vrai, que c'était entièrement faux et que les pays qui croyaient à ça et qui faisaient des éoliennes étaient des cinglés, des demeurés. Là, t'sais. Choisissez l'adjectif que vous voulez. Et coup de chapeau, mettons, aux traducteurs francophones qui ont eu à doubler l'heure complète de Donald Trump à lancer ses mille et une attaques, bien sûr, sans fondement. Pendant, c'est ça, une heure de temps avec tout le monde qui était pris en otage de l'écouter puis de rire à ses jokes de manière polie, mais de se dire dans leur tête « Qu'est-ce qu'on fait encore ici? » Mais en même temps, c'est ça qui arrive. Tu veux pas te mettre à dos Donald Trump. Fait que t'es obligé de rester de sourire. Un peu comme l'ont fait les Britanniques quand ils ont accueilli Donald Trump au château de Windsor. Donald Trump se vantait d'être le premier président à jamais avoir été reçu à Windsor avec le roi et tout ça. Le seul bout qui est vrai dans ce qu'il disait là-dedans, c'était effectivement le premier invité du roi. Parce qu'avant lui, c'était la reine, et la reine avait reçu Joe Biden. Et même avant ça, la reine avait reçu Donald Trump. Fait qu'il était de loin à ne pas être le premier président des États-Unis à aller en Angleterre, mais aller au château de Windsor, parce que Barack y avait été, les Bush y avaient été, je pense Reagan y avait été aussi. Fait que, tu sais, ils ont été une coupe à y avoir été. Là-dessus, c'est pas vrai qu'il était le premier à y aller, mais c'est vrai qu'il était le premier invité du roi. Ce bout-là est vrai, mais qu'est-ce qui est le plus important? Hein? La vraie affaire ou quelque chose d'approximatif pour Donald, c'est quelque chose d'approximatif. Parce qu'une autre affaire qui a été approximative cette semaine, C'est encore une fois Donald qui dit que les Tylenol causent l'autisme lorsque les femmes enceintes en consomment. J'ai l'air d'y aller en rafale, mais c'est parce que maintenant, on ne passera pas toute l'heure là-dessus non plus, mais c'est ça. Fait que dans les autres... Dans les autres bouts compliqués de la vie de Donald, maintenant, les Tylenol causent l'autisme parce que c'était une mission que s'était donnée Donald Trump et par conséquent Robert F. Kennedy qui est rendu plus brun que Donald, faut le faire, mais quand même. Bon, on l'a déjà vu en train de sortir de salon de bronzage, lui qui est supposé être le directeur de la santé aux États-Unis. Et donc là, ils vont maintenant de la recommandation de ne plus prendre des Tylenol pour les femmes enceintes, parce que ça pourrait donner de l'autisme. Ça, causer l'autisme, je devrais plutôt dire, mais le problème, c'est que cette fameuse étude qui prouve que l'autisme est lié au Tylenol, et très précisément au Tylenol, ben ça relève de pas grand-chose de la réinterprétation de chiffres qui ont été faits un peu récemment, et qu'aucun scientifique a corroboré à part les quelques personnes qui ont travaillé à dire que les Tylenol pouvaient peut-être causer causer l'autisme ou augmenter les chances qu'un enfant soit atteint d'autisme à cause de la mère qui a pris des Tylenol pendant qu'elle était enceinte. Mais c'est pas réellement... En tout cas, le consensus scientifique veut que c'est pas réellement cause à effet. Au sens où c'est pas parce que tu prends des Tylenol que ton enfant devient autiste. L'exemple qu'on donnait, c'est comme si parce que l'été, il y a plus de noyades que l'hiver et qu'il y avait plus de ventes de crème glacée l'été, ben les crèmes glacées causaient les noyades. C'est à peu près de ce calibre-là de dire que les Tylenol causent l'autisme. C'est pas parce qu'il y en a plus de consommation, qu'il y a plus de Tylenol vendu parce que les femmes enceintes, ça peut leur arriver d'avoir mal à la tête, que nécessairement ça veut dire que leurs enfants sont plus autistes. Et il faut surtout comprendre que la définition d'autisme en tant que telle a été élargie, au sens où c'est pas nécessairement... c'est pas tout des Rain Man, là, comme dans le film avec, avec Tom Cruise. T'sais, ils vont pas regarder une boîte d'allumettes à terre et ils vont dire il y en a 42. T'sais, ça va être beaucoup plus large. Le spectre de l'autisme est beaucoup plus large. Une introversion, puis il peut avoir des degrés beaucoup moins élevés, de l'autisme beaucoup moins grave, qui vont être comptabilisés quand même. Un déficit d'attention va peut-être rentrer là-dedans à un certain degré. Là, je m'avance des affaires, mais en voulant dire que c'est pas obligé d'être les cas les plus graves. Les exemples aussi que Donald Trump donnait, c'était à Cuba et dans les sociétés Amish, il y a moins d'autisme. L'affaire, c'est que à Cuba, techniquement, je ne penserais pas qu'il y ait accès à des Tylenol parce qu'il y a un embargo et les produits américains ne peuvent pas se rendre à Cuba de un. Et les Amish doivent pas nécessairement avoir les mêmes facilités de diagnostic que dans les sociétés qui utilisent les technologies modernes. Fait que c'est pour ça qu'on peut pas vraiment comparer tout ça ensemble, mais encore une fois, pour Donald, est-ce que des données approximatives ou la vraie affaire vaut la peine? C'est ça. Fait que pour ajouter l'insulte à l'injure, on aurait trouvé que notamment Andrea A. Baccarelli, le doyen de l'école de santé publique d'Harvard, aurait témoigné à titre d'expert dans un procès visant Johnson & Johnson, le fabricant de Tylenol, en 2023, où il représentait des parents qui poursuivaient l'entreprise. Le juge de district américaine, Denise L. Côté, c'est drôle, ça s'appelle Côté, a rejeté la cause. Faute de preuves scientifiques suffisantes, et dans son jugement, elle a affirmé que Andrea A. Baccarelli avait été trié sur le volet et avait dénaturé des résultats d'études justement pour ses liens entre Tylenol et autisme. Les travaux de Baccarelli ont tout de même été utilisés par l'administration Trump pour tisser des liens entre Tylenol et autisme. En août, le chercheur a publié une étude qui concluait à une association entre la prise périnatale d'acétaminophène et une incidence accrue du trouble neurodéveloppemental comme le TDAH et l'autisme. Je n'étais pas si loin avec le TDAH, mais donc voilà. Donc le TDAH est englobé avec autisme dans certaines définitions. Donc c'est pour ça que des fois, l'indice peut être plus large. Et que, ben justement, parce qu'on diagnostique mieux, on diagnostique plus, que c'est pas juste un enfant dans la lune et un peu distrait dans son cours de mathématiques, que, ben c'est ça. C'est des gens qui sont diagnostiqués avec, justement, des troubles d'attention plus âgés et tout ça, ben c'est ça. C'est que c'était ça quand il était plus jeune, mais qu'on disait juste qu'il était dans la lune et qu'il devait plus se concentrer sur son bulletin. Donc voilà, donc l'étude qui a été brandie par Donald Trump à la Maison-Blanche dans une espèce de gros setup avec RFK en background qui faisait ce qu'il faisait, ben c'est ça. C'était basé sur une étude d'un gars plus ou moins fiable qui avait été acheté pour une famille qui a tenté de poursuivre Johnson & Johnson. L'étude a été citée comme la preuve d'une relation causale entre le traitement et l'autisme par la Commission aux aliments et aux médicaments américains, Marty McMurkey. Il s'appelle Marty M. Murkey, mon Dieu. Lors d'une conférence de presse lundi, ses interprétations ont été vivement critiquées par la véritable communauté scientifique qui affirme que les preuves existantes ne démontraient qu'aucune corrélation, qui ne démontre qu'une corrélation et non une causalité. Donc, ça donne, mais ça ne veut pas dire que c'est à cause de. Donc, il y a quand même une espèce de... Il y a quand même une bonne... différence, encore une fois, c'est pas parce qu'il y a plus de morts l'été, il y a plus de ventes de crème glacée que la crème glacée cause les noyades. Fait que c'est à peu près de cet équivalent-là, mais pour Donald Trump, c'est suffisant. Et quelque chose qui n'était pas suffisant pour Donald Trump, c'était le retour également de Jimmy Kimmel à la télévision américaine. Il me semble que j'en avais parlé la semaine dernière. En fin d'émission, que Jimmy Kimmel se faisait censurer son émission par le ABC, mais surtout les distributeurs d'ABC à travers l'Amérique du Nord. Oui, littéralement, parce que même ABC Plattsburgh, qui est renvoyé notamment par les fournisseurs de Vidéotron, censurait encore Jimmy Kimmel au début de la semaine, mais... En bon consommateur, j'ai juste enlevé la chaîne de mon forfait télé parce que, ben c'est ça, on les payera pas s'ils ne nous donnent pas le produit qu'ils sont censés donner. Qui plus est, City TV Montreal, qui est une chaîne gratuite, retransmet, elle, Jimmy Kimmel. Donc, sachez-le, Nexstar possède ABC, NBC, Plattsburgh. Donc, voyez-le, ceux qui ont encore le câble chez eux. Et, ben c'est ça, c'est donc les fournisseurs de ABC à travers l'Amérique du Nord ont décidé de censurer Jimmy Kimmel encore malgré son retour en ondes parce qu'eux exigeaient que Jimmy Kimmel s'excuse publiquement et qu'il fasse un don substantiel à la compagnie de Charlie Kirk pour s'excuser sur ses propos sur Charlie Kirk, qu'il faut rappeler n'était pas sur Charlie Kirk, mais bien sur le tueur de Charlie Kirk qu'il faisait... qu'il avait fait une blague là-dessus. D'ailleurs, quand il est revenu en ondes, il était très émotif parce que justement, il a failli perdre sa job et l'entièreté de son équipe a également failli perdre sa job au début d'une saison télé, qui plus est. Donc, qui s'excusait qu'on ait pu penser qu'il voulait faire des blagues sur un gars qui est mort, ce qui n'est pas le cas. Encore une fois, on a rappelé que Jimmy Kimmel avait offert ses condoléances sur les internets lorsque c'était arrivé, qu'il ne méritait pas ça. Mais essentiellement, il n'a jamais ri de la mort de Charlie Kirk. Il a dit que les magas essayaient le plus possible de se débarrasser des liens qu'ils pouvaient avoir avec le tireur, même s'il venait d'une famille républicaine, maga, mormon, d'un État rouge... qui votait républicain de père en fils, dont son père était un ultra-maga. Fait que, tu sais, shérif à part de ça, puis que c'est sa grand-mère qui l'a stoulé de « Ouais, je trouvais qu'il y avait des petites idées à gauche depuis une couple de semaines. » Parce que là, il fallait absolument le renvoyer dans l'autre gang, la gang méchante, l'autre bord de la clôture, alors que ben, il y a des nombreuses études qui ont été faites par le département de la justice qui prouvent que la plupart des des massacres et des tueries qui ont été commis aux États-Unis dans les 20 dernières années ont été à peu près toutes faites par des gens qui se revendiquaient de la droite. En tout cas, au moins les trois quarts, si c'est pas un petit peu moins, mais tu sais, c'est pas vrai. Quand les rouges disent que les bleus sont violents, techniquement, sur papier, lorsqu'on regarde les réelles statistiques, c'est les rouges qui sont pas gentils et qui font des tueries parce qu'eux, ils ont des fusils. Mais voilà. Donc, Donald Trump était vraiment en beau maudit, pour ne pas dire d'autre chose, et a écrit carrément sur ses réseaux sociaux qu'on m'avait assuré que Jimmy Kimmel ne reviendrait pas en onde. Si ça se trouve, il va falloir que je poursuive personnellement ABC alors qu'ils m'ont déjà donné de l'argent un moment donné. Donc, il a clairement exprimé que c'était sa commande et non pas une demande officielle du CRTC américain qui disait que Jimmy Kimmel avait dépassé les bornes et tout ça. Donald Trump a télégraphié lui-même que c'était sa propre commande et qu'il souhaitait que Jimmy Kimmel quitte les ondes parce qu'il ne l'aime pas. Ben, les deux ne s'aiment pas beaucoup, de un. Et que ben, parce que Jimmy Kimmel était un animateur poche et que ses cotes d'écoute n'étaient pas bonnes, qu'il ne méritait pas d'être à la télévision. Et ça a fait également en sorte que Jimmy Kimmel, avec son retour en ondes, malgré le fait que Sinclair et Nexstar, les diffuseurs d'ABC, censuraient l'émission dans à peu près quasiment les deux tiers du pays, avaient obtenu une cote d'écoute de 6 millions, qui avait quand même été capable de faire son meilleur score d'émission depuis les 15 dernières années. Je pense que c'était 2010 que le Late Show à ABC n'avait pas eu une cote d'écoute aussi bonne, avec 6 millions et quelques de gens qui ont écouté cet épisode-là le soir même où Jimmy Kimmel est revenu en onde. Et évidemment, ben, c'était salué également par les autres collègues animateurs de Late Show, même s'ils sont bien sûr tous en compétition, mais qu'au final, ben, ça a commencé avec Stephen Colbert qui s'est fait supprimer son émission l'année prochaine, mais que ça avait été trop drastique avec Jimmy Kimmel du jour au lendemain. Donc, CBS qui aura peut-être un moment donné à revoir ses trucs et peut-être donner une chance à Colbert, mais sinon, il y en a un qui est toujours censuré par Donald Trump et son équipe qui fait des vendettas personnelles parce que Donald Trump l'a dit dans le rassemblement WWE qui, au passage, était des funérailles pour Charlie Kirk. Donald Trump l'a dit, il haïssait ses ennemis et qu'il ne pardonnerait jamais aux gens qui l'avaient trahi, contrairement à ce que Charlie Kirk pouvait faire. Lui, il haïssait. « I hate my opponents. Je les haïs. » Comme il l'a très bien dit. Donc, sans surprise, Donald Trump est rancunier. Voilà. Donc, voilà pour le topo américain. On regardera l'actualité d'ici, tout de suite après cette courte pause ici sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Cap Bouchard, qu'on vient d'entendre en musique avec Drôle de temps, parce que c'est ça, on est dans une drôle de période en ce moment dans la vie. Donc, ça fitait parfaitement. Et un qui a trouvé le temps long, probablement, et qui avait hâte que ça finisse, c'est certainement Karl Malenfant à la commission Galant pour sa clique. Il a essayé de faire pitié dans ses dernières journées de témoignage après s'être fait pogner à mentir, notamment, et à dire que c'est pas juste de ma faute si ça s'est pas bien passé et que les Québécois devraient être contents que maintenant c'est fait. Il a osé dire ça quand même, Karl Malenfant, mais voilà. Donc, ne pas se prendre pour un 7-Up flat égale Karl Malenfant, parce que c'est ça. Il a essayé de faire pitié un petit peu dans tout ce processus-là, parce que pourquoi c'est seulement lui à qui on fait des reproches et pourquoi c'est seulement lui qui devrait porter l'odieux du fiasco de sa clique alors que le logiciel marche aujourd'hui, ce qui n'est pas tout à fait vrai parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça. On se souviendra qu'il y avait eu une panne avec la mise à jour du système Windows et que ça avait fait en sorte que tout avait planté. Quelque chose comme ça, mais voilà. Donc, c'est pas le logiciel le plus stable non plus, qui n'était pas d'ailleurs destiné à gérer les plaques d'immatriculation d'une province au grand complet parce que semble-t-il que c'était un logiciel pour des pièces d'auto. Pour faire comme l'inventaire de pièces de char ou je sais pas trop. C'est ce qu'on pouvait lire notamment sur le site de Radio-Canada cette semaine. Mais voilà, donc Malenfant n'est pas le seul à devoir porter le blâme, selon lui, et qu'il est un paratonnerre plus que d'autres choses. Donc, pauvre petite victime qu'est Karl Malenfant, qui s'est probablement mis dans les poches de l'argent. Donc, ça serait à voir s'il y a réellement les accusations qui vont être portées après la commission Gala, parce qu'il faut le rappeler, ce n'est pas un tribunal, la commission Gala, même si on l'appelle le juge Gala. C'est parce qu'il va juger de la chose et non pas parce qu'il a les pouvoirs d'un magistrat, genre d'envoyer Karl Malenfant en prison ou de l'interdire d'accéder à aucun bureau ministériel pour le restant de sa vie. Parce que c'est ça, Hydro-Québec et sa clique, c'est grâce à lui si ça coûtait trop cher. Et en partie, hein, c'est vrai, c'est pas juste à cause de lui. Il y a Loulou et Mado aussi. Ces grands chums, pas chums, qui ont eu des contrats à cause, ou en tout cas, surtout grâce à lui. Peut-être, allégué, c'est pas dit. Attention! Les échanges de courriels qui disent « Salut Loulou, ma grande chum, j'ai hâte de te voir » ne sont que des suppositions sur leur amitié. Rien de moins. Le canevas de base de la plateforme de sa clique n'avait aucun rapport avec la gestion des usagers de la route. C'était un logiciel de gestion de pièces d'entrepôt. Je disais de pièces de char, mais non, c'est des pièces d'entrepôt. C'est ce qu'a affirmé dans son témoignage l'ex-président de la firme informatique LGS, Michel Dumas, dont les employés avaient la tâche d'adapter le logiciel développé par ASAP, une firme allemande, aux besoins de la SAC. Donc, c'est comme s'ils prenaient, mettons, l'application IGA, l'application pour commander en ligne, puis qu'ils disaient « OK, on va partir de tout ça, puis là, il faut qu'on soit capable de gérer les numéros de plaque de l'entièreté de la province. Go! » C'est sûr que c'est pas tout à fait facile. T'sais, si tu pars d'un canevas de base qui n'est pas supposé faire ce que tu veux y faire faire, c'est sûr que ça peut être compliqué et qu'il va falloir que tu engages du monde pour être capable de tourner les coins ronds, pour être capable de régler des fonctions qui n'étaient pas prévues à la base. Donc, dans ce cas-ci, c'est ça. C'était supposé être un inventaire de chez Rona qui devient soudainement le besoin de gérer les numéros d'assurance sociale de la province. Donc, dès le début de son projet de transformation numérique, la SAC a choisi l'option d'un progiciel de gestion intégrée plutôt que de développer elle-même ses nouveaux systèmes informatiques. Donc, c'est exactement ça. C'est qu'au lieu de créer de toutes pièces un logiciel pour faire ce qu'il a besoin de faire, on est parti d'un truc de base et on a chargé 1,1 milliard. 1,1 milliard aux Québécois pour adapter un logiciel et en plus mal le faire et le livrer en retard. C'est-tu pas beau, cette job-là? Donc voilà. Donc, Karl Malenfant, c'est ça. Donc, il, au début, avait l'air de vouloir être de bonne foi. Finalement, s'est révélé à être extrêmement mauvais et arrogant avec le juge Gala notamment, et les avocats surtout, qui n'aimaient pas la manière dont les questions étaient posées et que Gala a été obligé de le ramener à l'ordre. Lui et son avocat, hein, on se souviendra des images aussi de l'avocat. Là, monsieur le juge, je trouve que c'est mal organisé, cette affaire-là. L'avocat a l'air de l'accuser, puis il ne devrait pas. Puis là, je suis pas d'accord, et Malenfant qui crie. Là, vous allez vous rasseoir, c'est pas vous qui décidez. Moi, s'il y a un problème, je vais le dire, c'est moi qui va décider. Fait que, non, ça n'a pas été édifiant, disons ça comme ça, avec un témoignage qui a duré une semaine et demie quasiment, parce qu'il a fallu qu'il fasse le transport entre Montréal, Québec et Québec, Montréal et Québec, parce qu'il fallait qu'il se déplace au travers de tout ça dans la semaine dernière. Fait que, ça n'a pas été super édifiant, et puis, c'est ça, Karl Malenfant s'est fait pogner à mentir devant le commissaire parce qu'il disait qu'il n'avait pas eu accès au contrat qui devait être envoyé pour les soumissions, donc pour que les gens qui voulaient avoir ce contrat-là pour soumettre. Techniquement, Karl Malenfant ne devait pas l'avoir. Il disait qu'il ne l'avait pas eu non plus. Et il y a des courriels qui prouvaient que Karl Malenfant lui-même s'était envoyé un document confidentiel sur son adresse personnelle. Donc, de son adresse de job à son adresse personnelle, il s'était envoyé des documents confidentiels et que sa seule réaction devant le juge Gallant avait été « Ah, oh, ben, je t'étourdis. Je comprends pas ce qui se passe. J'ai aucun souvenir. Ben, ça a l'air c'est moi, mais j'ai aucun souvenir. Pauvre petit Pit. Et ben c'est ça. C'est finalement le juge a réussi. Ben pas le juge, mais son avocat a réussi à trouver une twist, comme de quoi que finalement Karl Malenfant avait bel et bien le droit de consulter ces documents-là. Et oh surprise, c'est une de ses chums qui avait obtenu le contrat. Ben je sais pas si c'est spécifiquement celui-là, mais c'est arrivé à plusieurs autres occasions que Loulou et Loulou puis l'autre avaient obtenu les contrats en question parce que, ben c'est ça, Karl Malenfant leur devait, puis va-t'en dans telle compagnie, on va leur donner le contrat, tu vas pouvoir travailler là-dessus. Mado, Loulou et Mado, Madeleine et Louise, c'est bonne chum, pas chum, parce que j'ai hâte de te voir au souper ce soir. Au souper de couple qu'on fait ce soir, mais on se connaît pas tant que ça, on est comme des collègues de travail. Fait que voilà, moment un peu glorieux, disons ça comme ça, mais en même temps, effectivement, ce n'est pas que de la faute de Karl Malenfant, mais il ne faut pas oublier que Karl Malenfant est à peu près le grand Manitou. Tout le monde devait se référer à lui ou tout le monde devait passer par lui à un moment ou un autre. Fait que c'est sûr qu'il va être un petit peu plus sur le banc avec des accusés que les autres, mais effectivement... Il n'y a pas juste lui qui a autorisé des grosses dépenses de contrat. Il y en a d'autres aussi qui ont signé ces papiers-là. Fait que, est-ce qu'on réussira à trouver et à mettre la main sur celui qui a réellement fait en sorte que le saclic a planté et qu'il y a eu des dépassements de coûts qui ont été non justifiés et qu'il y a des dépenses qui ont été faites complètement ridicules? Probablement pas, parce que tout ce monde-là finisse à un moment ou un autre par se baquer ou qu'il y a tellement de signatures que ça fait en sorte que c'est pas une plus qu'un autre. Mais c'est ça, ça reste que c'est de l'argent extrêmement mal dépensé sur des affaires qui se voulaient importantes, mais que, bien sûr, on va focusser sur l'écriture inclusive et les prières de rue qui n'existent pas. Comme l'ont fait la CAQ et le PQ cette semaine, parce qu'au retour, on parlera politique provinciale sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de CHIZ. On est de retour sur les ondes de CFAQ et de CHIZ. Vanille, qu'on vient d'entendre sur les ondes avec « Ce n'est pas ici, ce n'est pas ailleurs ». Ben restons ici, c'est le cas de le dire, parce qu'on sera rendu à la politique provinciale, puisque, ben c'est ça, on est de retour. On est-tu de retour en chambre? Non, mais les caucus se préparait cette semaine, donc voilà, on a décidé de régler des gros dossiers super importants. Notamment, vendredi matin, on apprenait que Bernard Drinville, nouveau ministre de l'Environnement, qui n'aime pas qu'on lui parle de GES, sera content parce que maintenant, il va interdire... il va plutôt lever l'interdiction des ventes de véhicules neufs à essence à partir de 2035. Donc, on se souviendra que dans un désir de vouloir aider d'un temps soit peu l'environnement, on disait qu'à partir de 2035, donc dans 10 ans, tous les nouveaux chars devaient être des chars électriques et non pas seulement des chars à essence neufs. Il faut le rappeler parce que ben, c'est ça, les chars usagés pourraient continuer de survivre encore extrêmement longtemps, mais on voulait prioriser les chars électriques. Ironiquement, on a enlevé des incitations à avoir des chars électriques, genre des remboursements ou des aides financières pour des bornes de recharge. Mais bon, c'est un détail. Et c'est ça, Bernard Drinville qui aime l'environnement parce que quand il était jeune, il restait sur une ferme. Donc, pour les fermiers, l'environnement, c'est important. Et que dans la shed chez eux, il y avait une affiche qui disait « L'environnement, c'est important ». Donc, pour lui, l'environnement, c'est très important. C'était comme ça qu'il avait justifié son entrée en poste au ministère, parce qu'il y avait une affiche d'outarde qui disait que l'environnement, c'est important. Heureusement hein, que ces outardes-là étaient là. C'est ça. Québec revoit sa cible de 100% à 90% de véhicules neufs électriques ou hybrides vendus dans la province dès 2035. Donc, même si la CAQ sera morte et enterrée d'ici 10 ans, on ne sera plus obligé en 2035 d'acheter des chars électriques. Ça, c'est Éric Duhaime aussi qui va être content. Donc, bravo Bernard! Et également, ben, on apprenait qu'il licenciait à peu près 150 employés au ministère de l'Environnement parce que ben, c'est ça. Ça donne qu'on a également des restrictions budgétaires. Donc, il faut mettre du monde dehors et on mettra du monde de l'environnement dehors parce que à la CAQ, ce n'est plus important, même si ça ne l'était déjà pas spécialement. 134 postes officiellement au ministère de l'Environnement, plus de 1200 fonctionnaires qui ont perdu leur emploi depuis le printemps seulement. Ils ont rajouté Santé Québec, le tableau de bord en éducation, ils ont rajouté des fonctionnaires partout ailleurs, mais l'environnement, c'est la place où on peut couper le plus rapidement possible parce que là, chez nous, avec les GS. Quand on dit justement de pelleter des nuages sur les affaires qui sont pas importantes, quand on a sa clé, qu'on a les médecins, surtout, qui continuent de négocier et que ben, ça va pas super bien, que François Legault a perdu patience cette semaine en disant que tout était de la faute des médecins, bien sûr, la CAQ s'attaque à des gros dossiers comme l'écriture inclusive. Qu'est-ce que c'est l'écriture inclusive? C'est de l'écriture pour ne pas mettre de l'avant plus un genre que l'autre. Et c'est arrivé à l'occasion que certaines communications du ministère, notamment de l'éducation, avaient tenté d'être inclusifs et avaient écrit YEL, avaient écrit CELE au lieu de celles et ceux, avaient écrit étudiant.e.s pour étudiant, étudiante, S au pluriel. Donc, ils avaient osé utiliser cette nouvelle grammaire. Jean-François Roberge, protecteur des règles de grammaire du 18e siècle, est arrivé et a dit « Non, vous n'avez plus le droit ». Aucun ministère ne fera de l'écriture inclusive tant que je serai ministre de la langue. C'est interdit parce que c'est trop compliqué à conjuguer. C'est ça la raison que Jean-François Roberge a donnée. C'est parce que là, t'écris « Yel ». Mais sais-tu « Yel est content » ou « Yel est contente » ? Ça veut-tu dire qu'il faut écrire « content.e » ? C'est assez difficile. Mais c'est drôle parce qu'en l'expliquant, il explique exactement c'est quoi la règle. Si tu veux ne pas genrer ton sujet, « Yel est content, contente ». Un point entre le T et le E. Comme ça, c'est pour les deux. Ah, mais là, ça devient difficile à lire. Force-toi. Parce que c'est quoi les règles d'accord avec avoir? Ah, c'est trop difficile. Qu'est-ce qu'on dit depuis des années quand on essaye de réformer la règle des accords avec vos participes passés avoir? Forcez-vous. Nous, on l'a appris de même. Apprenez-le de même. Fac. Après ça, de dire que c'est trop compliqué, Yel est content, contente. Ah, c'est assez dur. Je suis pas sûr de comprendre comment accorder. Hey, là, un moment donné, là, si ton seul critère pour empêcher quelque chose de se faire, c'est parce que tu penses qu'il va y avoir des gens qui vont trouver ça difficile à faire, et là, on n'est pas à veille d'avoir nénuphar avec des F dans l'orthographe aujourd'hui, hein? Parce qu'il faut le rappeler, nénuphar devrait s'écrire avec un F et non pas avec un PH, parce que c'était une erreur à l'époque et que la racine originale de nénuphar était avec un F. Mais qu'un moment donné, un saltimbanque a décidé de mettre nénuphar PH parce que ça faisait beaucoup plus beau. Et aujourd'hui, on écrit nénuphar PH ou oignon, pas de I, parce que c'était juste joli. Mais enfin, en tant que tel, c'est pas oignon non plus. C'est pas oignon non plus. Fait que pourquoi il y avait un « i » là-dedans? Mais est-ce qu'on va être avec de l'enlever, le « i » d'oignon? Non. Pourquoi? Parce qu'on trouve que ça fait pas beau. Mais c'est ça. Le critère de beauté ne devrait pas primer sur la règle en tant que telle. Et là, on est allé demander à Denis Laferrière ce qu'il en pensait. Aux surprises, Dany Laferrière, qui est à l'Académie française, qui ont sorti un dictionnaire passé date avec des définitions manquantes pour des mots modernes, dit que l'écriture inclusive, c'est pas une bonne affaire et que quand ce sera réellement en vigueur, ce sera dans 6 ou 7 générations. Fait que pour Dany Laferrière, l'écriture inclusive devrait être optimale d'ici 2145. C'est optimiste. Mais c'est ça. Fait qu'il trouvait ça bien cute, mais que c'était trop compliqué, que ça alourdissait les textes, que c'était pas beau. Fait qu'encore une fois, un critère de beauté. Et sinon, ben d'autres qui ont brassé des nuages pour pas grand-chose cette semaine, c'est le Parti québécois, parce qu'il publiait hier un sondage réalisé auprès de son propre membership. Donc, 100% des répondants du sondage votaient pour le PQ. Donc, déjà là, c'est biaisé et pas rien qu'un peu. Et on leur demandait s'ils trouvaient ça, le Québec devrait interdire les prières de rue spontanées qui bloquent le trafic et qui pourraient faire des accidents. Surprise! 96% des gens qui votent pour le PQ ont dit que non, fallait pas autoriser ça. Surprise! Fallait pas autoriser des trucs qui pourraient causer des accidents. Et ils sont arrivés tout contents à l'Assemblée nationale pour dire qu'on avait des directives claires, que les gens du Parti québécois avaient parlé, parce que 54% en plus du membership du Parti québécois avait voté. Jean-François Lisée, à ici RDI, les a stoulés. Il a dit que c'était à peu près 19 000 personnes qui avaient voté. Donc, 19 000 personnes dans la province au grand complet qui votent à 100% pour le PQ, soit l'équivalent de 0,4% du public votant de la province au grand complet, dit que faire des prières de rue pour causer des accidents, il ne faudrait pas autoriser ça. Et malheureusement, c'est ça. Paul est sorti tout heureux. Il a eu de la misère à l'expliquer à Patrice Roy, lui aussi, ici, RDI. Il disait aussi que les enfants du primaire ne devaient pas porter de signes religieux ostentatoires, mais qu'au secondaire, c'était correct. Fait qu'un enfant qui a 12 ans n'aurait pas le droit de porter une grosse croix chrétienne, parce que c'est toutes les religions, hein, Paul? Wink, wink. Mais que rendu en secondaire 1, à 14 ans, là, il aurait le droit. Patrice Roy a demandé pourquoi le primaire, pourquoi pas tous les niveaux d'école? Ah, oh, ben, il fallait qu'on trace la ligne quelque part. Ouais, mais pourquoi le primaire? Ben, c'est de même, là. C'était pas édifiant, mettons, l'entrevue de Paul le soir même avec Patrice Roy. Mais c'est ça. C'est un sondage biaisé, à peu près l'équivalent de demander sur Twitter pour qui vous allez voter quand tes auditeurs ou en tout cas tes abonnés sont clairement en accord avec ce que tu dis. Donc, ils vont voter à peu près dans le même sens que toi. Fait qu'ils ont demandé à leur propre membership pour ceux qui avaient vu le courriel. Parce que si ton courriel est allé dans les courriels, ben, tu ne pouvais pas te prononcer sur la grande question si on devait autoriser les prières de rue qui bloquent le trafic. Et ben, justement, ils ont bien fait de sortir leur petit sondage jeudi même. Parce que hier soir, à Infoman, ils ont fait le tour des sondages bidons de la CAQ. Parce qu'on se souviendra que la CAQ avait demandé aux Québécois et Québécoises s'ils voulaient qu'on change l'heure, parce que ça a une valeur scientifique de demander à la population un changement aussi drastique que l'économie au grand complet de la province, et avait demandé aux gens de la région de Québec et de Lévis s'ils voulaient ou non un troisième lien. Et surprise, ils voulaient un troisième lien. Donc, Jean-René faisait le tour un peu des sondages bidons qui confortaient plus que d'autres choses, parce que ça n'avait aucune valeur scientifique ou ne serait-ce que représentative. Parce qu'en plus, dans ces deux sondages-là, on pouvait répondre n'importe quoi et le nombre de fois que l'on voulait. Donc, on pouvait dire qu'on était quelqu'un de la Côte-Nord qui voulait que le changement d'heure ne se fasse pas, qui avait 99 ans et plus, il n'y avait aucun moyen de vérifier si c'était vrai ou non. S'ils avaient sorti leur sondage mercredi, par exemple, probablement que ce serait ramassé dans le reportage de Jean-René Dufort pour les sondages bidons, parce que c'est ça. 0,3% de la population votante au grand complet qui dit qu'on ne veut pas faire d'accident, ben, c'est un peu normal. Et d'ailleurs, ben, c'est ça, c'est que le premier reportage de Jean-René hier à Infoman, c'était ça. C'était Jean-René qui allait à la recherche de dangereuses prières de rue qui arrivent à tout bout de champ à Montréal. Et surprise, de toutes les prières de rue enregistrées, qui ont été répertoriées, avaient été avait été déjà annoncé par la police parce que c'était des manifestations en soutien avec la Palestine. Donc, c'était pas juste la messe du dimanche dans le milieu du boulevard Sainte-Catherine. C'était des manifestations prévues dont les autorités avaient connaissance et que c'était en soutien à la Palestine et non pas uniquement pour faire des prières religieuses dans le milieu du chemin. Mais là, Jean-François Robert, je disais que ça n'avait pas de bon sens, qu'il y en avait à tout bout de champ, que ça n'avait pas d'allure. Il y avait surtout un contexte. Mais, encore une fois, c'est pas juste pour Donald, là. Ça vaut pour la CAQ et pour le PQ. Est-ce que ça prend des réels faits ou ça prend juste une vidéo filmée sur Instagram pour prouver qu'il y a un problème majeur? Ben, c'est ça. Des fois, on tourne les coins ronds un petit peu, on s'engouffre dans des trucs qui sont pas nécessairement positifs pour juste casser du dos sur le fait qu'on n'aime pas la religion musulmane. Ou en tout cas, qu'on n'aime pas toutes les religions, parce que toutes les religions sont pas bonnes, surtout une, mais surtout toutes les religions. Et que, ben, c'est ça. Faut utiliser un bazooka pour neutraliser une mouche. Donc, c'est-à-dire utiliser les armes les plus, genre un projet de loi pour interdire des affaires qui se font, parce que c'était planifié. Fait que voilà. Donc, on accuse souvent Québec solidaire de pelleter des nuages, mais la CAQ et le PQ ne laissent pas leur place non plus. On fait une courte pause. On retourne à la conclusion de l'émission de cette semaine. Zoo Baby sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz, qu'on vient d'entendre en musique. Rapidement, pour finir l'émission de cette semaine, ben, on restera en politique municipale, mais du côté de Québec, puisque ben, c'est ça, on apprenait ce vendredi que le scénario du péage sur le troisième lien ne serait pas chose du passé. On apprenait, bon, en 2021, que la formule avait déjà été évacuée une première fois lorsqu'on parlait encore du tunnel à deux étages. C'était-tu le tunnel à deux étages? Oui, le plus gros tunnel à deux étages jamais réalisé sur l'entièreté de la planète qui devait relier Québec et Lévis. Cette mouture-là, on la rappelle, avait été annulée par Geneviève Guilbeault qui s'était présentée avec quatre gros cartables, 4 pouces, avec des documents pleins qu'elle avait dit qu'elle avait toutes lues pour dire qu'il n'y avait rien qui justifiait un troisième lien avant d'être obligée de revenir un an plus tard dire que là, ça prenait absolument un troisième lien parce qu'on était en train de perdre la région de la capitale nationale pour la CAQ. Et ben c'est ça. Dans la foulée des études pour le pont de Tadoussac, parce que encore une fois, si on part de Québec et qu'on veut aller à Tadoussac, il faut encore attendre après un traversier quand ce pont-là est réclamé depuis des dizaines d'années. Ben le troisième lien, lui, pourrait avoir le jour, peut-être, si le BAP l'autorise. Mais bonne nouvelle, Bernard Drainville a été mis en place, je le rappelle, pour que les délais de construction arrêtent d'être ralentis à cause des questions d'environnement, parce que comme François l'a dit lorsqu'il a assermenté Bernard Drainville, là, un moment donné, les chichis d'environnement puis les petits problèmes de petits animaux qui vont disparaître, c'est pas important. Ça fait en sorte que les projets retardent, fait que Bernard va s'arranger pour que ça prenne moins de temps. On est rassuré. Et ben, comme le troisième lien en ce moment est à l'étape du BAP, de demander des experts en environnement s'ils sont vraiment experts qui disent que ça n'a pas de bon sens, même si probablement ils vont s'obliger de dire que ça va être le cas. Ben c'est ça. La formule avait été écartée il n'y a pas longtemps, mais c'est de retour sur la table. Et évidemment, ben, ça ne fait pas le bonheur des candidats de la région de Québec. Faudra-t-il payer pour emprunter le troisième lien entre Québec et Lévis? Les députés caquistes ne sont pas spécialement contents de la chose. Je ne suis pas enthousiaste par rapport à ça. Je ne l'ai jamais été. Je ne suis pas très enthousiaste par rapport à ça. A lancé le député caquiste de Vanier-les-Rivières, où justement le troisième lien devrait venir passer bord en bord Vanier, donc saccager Vanier, comme Bruno Marchand le disait lorsqu'il disait que ça ne l'intéressait pas spécialement, lui, en tant que maire. Mario Asselin, vendredi, en marge du caucus de la CAQ à Gatineau. « Hey, à Québec, on paye assez de taxes. Pourquoi faudrait payer une taxe sur un chemin à cette heure? » Il n'a pas dit « acheteur », mais il a dit, pour sa véritable citation, « Hey, à Québec, on paye déjà cette taxe. » Le Journal de Québec écrivait vendredi que le gouvernement Legault opterait pour un péage dynamique pour son futur pont-tunnel. Donc, si on a sa petite carte dans son char, on serait débité automatiquement la pièce C25, si ça pourrait coûter pour emprunter le troisième lien au lieu d'aller se mettre dans la pire congestion monstre, comme le disait Bernard Drainville encore une fois lorsqu'il se faisait élire. Une option sérieusement envisagée, selon le nouveau ministre des Transports et de la Mobilité durable, Jonathan Julien, en raison des importants coûts liés au méga-projet, il affirme toutefois qu'aucune décision n'était prise à l'heure actuelle, mais on y est favorable, a-t-il précisé en mêlée de presse. J'aimerais mieux qu'il n'y en ait pas, a plus tard informé son collègue Éric Kerr, qui d'ailleurs, bravo à lui, a obtenu une promotion. Il est de retour au ministère de la cybersécurité, mais en tant qu'adjoint parlementaire. Fait qu'après avoir mal géré sa clique, avoir été obligé de démissionner l'hiver passé dans les chahuts et tout ça, ben il a été réintégré. C'est pas merveilleux. Je ne suis pas hostile à l'idée. Ça nous permet d'avoir un troisième lien à Québec, a ajouté Éric Kerr, qui croit que les Québécois doivent se prononcer sur cette question-là. Fait que lui aussi, il demande un référendum si les gens vont vouloir payer des taxes supplémentaires. Et ça, Éric Kerr, ça a été récompensé en retournant au ministère de la cybersécurité. C'est-tu pas beau? C'est un sérieux envisagé. On va le regarder, a brièvement soufflé le député de Chauveau, Sylvain Lévesque. Pour l'élu dans Bellechasse, Stéphanie Lachance, un péage ne poserait pas de problème. Pour les citoyens, je ne pense pas que ce soit un enjeu. Ce qu'ils veulent, c'est le troisième lien et l'avoir le plus rapidement possible. Désolé, Stéphanie Lachance, mais ça pousse pas de même un troisième lien. Interrogée sur cette question, la présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Duranceau, a quant à elle lancé « C'est bon pour le Trésor! » Parce que pour elle, plus d'argent, c'est sûr qu'elle va être contente. Fait que, voilà. Ils veulent pas faire le troisième lien. Ils veulent pas faire le troisième lien. Si l'on est rendu à dire que ça va prendre un péage, là, il va y avoir une levée de bouclier de la population de « c'est pas vrai qu'on va avoir un troisième lien avec un péage. C'est une nécessité. Est rendue où l'urgence économique dont parlait François et Geneviève, que là, s'il faut payer pour aller là-dessus, puis nanana, nanana. » Ah là là! Ben oui, c'est dans ça qu'on vit. On va dire ça comme ça. Et c'est là-dessus que ça se termine pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du deuxième service, ici même sur les ondes de CFAQ 88.3 à Sherbrooke et de chez 94.3 à Québec. Cette semaine, épisode 503. À la semaine prochaine. Salut!